en dirai des nouvelles.
Jean-François Cadet, Michaël Goncalves, Elsa Olaizola.
Bonjour, bonsoir. Au cinéma, il y a M le Maudit, le film de Fritz Lang, une histoire de rafle et de meurtre d'enfants. Dans La Marque Jaune, des épisodes de Blake et Mortimer, d'Edgar P. Jacobs, la lettre M est la signature d'un autre criminel manipulé par un savant fou. Eh bien, la fiction compte désormais un autre M inquiétant, M comme la première lettre de Ming, un empire chinois de l'intelligence artificielle, au sein duquel se construit dans le plus grand secret le monde de demain, à moins que ce ne soit d'ailleurs déjà peu ou prou le monde d'aujourd'hui. Un monde de surveillance généralisée, de liberté confisquée, dans lequel les smartphones, tablettes et autres outils intelligents règnent sans partage jusque dans nos choix et nos émotions, et dans lequel œuvre un tueur en série des plus cruels. M, le bord de l'abîme, le nouveau thriller de notre invité Bernard Minier, est paru aux éditions IXO, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Bernard Minier.
Bonjour.
Le M blanc dont la dernière jambe n'est pas tout à fait complète et qui figure sur la couverture de l'ouvrage, c'est donc le logo de cette entreprise Ming. On va y revenir dans un instant. Au passage, Minier, ça commence aussi par un M, hein, comme, oui. Voilà, comme votre héroïne qui signe aussi M, M comme Moira, et c'est sa silhouette que l'on voit sur cette couverture. Moira Chevalier, c'est son nom. C'est une jeune Française, une jeune femme qui au début du roman arrive à Hong Kong pour travailler chez Ming. Elle a toutes les qualifications pour le faire. On peut dire que c'est un petit génie de l'informatique ?
Oh bah elle appartient à une génération où il y a beaucoup de petits génies comme ça. Elle a une trentaine d'années. C'est une spécialiste d'intelligence artificielle. Elle a déjà travaillé au laboratoire FAIR Facebook qui se trouve à Paris. Elle est extrêmement qualifiée et elle a été repérée par Ming, ce géant chinois de l'internet et de la téléphonie mobile. Il faut savoir que les Chinois ont quand même l'habitude de faire ça, c'est-à-dire d'aller débaucher des cadres de chez Google, de chez Facebook, puisque c'est de ça dont il s'agit, et en leur proposant des salaires 3 à 4 fois supérieurs à ceux qu'ils ont, qui sont déjà quand même très élevés. Voilà. Donc voilà, et ils essaient de recruter le maximum de cerveaux, de spécialistes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui la Chine est leader de la recherche et du développement dans le monde.
Donc des chasseurs de têtes et de têtes bien pleines et bien faites, mais comme tous les personnages de romans intéressants, Bernard Minier, Moira a une fêlure, elle a une faiblesse, comme vous l'écrivez. De l'enfance, on ne guérit jamais, et son enfance, son passé familial notamment, c'est vraiment son talon d'Achille.
Oui, son talon d'Achille, c'est sa mère, enfin sa mère qui est décédée, mais qui au fond était une sorte de tyran domestique. On va pas en dire trop parce qu'il faut découvrir ça dans le livre, mais elle traîne un peu ce passé, pas comme un boulet, mais en tout cas comme une fêlure, une blessure jamais refermée. C'est vrai qu'on ne guérit jamais de son enfance. En fin de compte, l'enfance, on la traîne ou on la porte, ça dépend toute sa vie, pour le meilleur et pour le pire. On en garde des merveilleux souvenirs et on en garde aussi des blessures et des fêlures qui ne se cicatrisent pas.
Oui, et quand elle évoque sa mère, et là on est vraiment dans la première partie du roman, Bernard Minier, elle fait référence justement à un conte d'enfance, elle fait référence à Alice au Pays des Merveilles. Pour elle, sa mère, c'est la reine de cœur d'Alice.
Oui, qui était un personnage terrible, hein, la reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles. Oui, c'est la traversée du miroir au fond. Et oui, parce que c'est une sorte de mythologie, l'enfance aussi. Et pour tout un chacun, c'est comme on se construit une mythologie, on a des souvenirs, la mémoire elle est souvent trompeuse. Et c'est, voilà, chacun, comme de la même manière que la mythologie un peu et l'enfance de la littérature, chaque enfance a quelque chose de mythologique et elle a cette mythologie en elle. Elle va porter ses faiblesses et au fond, ses faiblesses, à un moment donné, elle va peut-être en faire des forces. On va voir, mais sans rien dévoiler.
Alors, et c'est à travers ses yeux, à travers les yeux de Moira que le lecteur découvre Hong Kong au fil de vos pages. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet endroit-là pour planter la scène de ce roman ?
Pour une raison qui est que le roman parle aussi d'intelligence artificielle, par des nouvelles technologies, parle du monde dans lequel on est en train d'entrer, qu'on est en train de nous construire, que ces géants de l'internet sont en train de nous construire, qu'on soit d'accord ou pas, de toute façon on y va à marche forcée, et c'est un match au fond dans lequel la vieille Europe a pas grand chose à dire, qui se joue, même s'il y a beaucoup de start-up en France et ailleurs, qui se joue essentiellement entre les États-Unis et la Chine a encore pris un peu d'avance par rapport aux États-Unis. Aujourd'hui la Chine dépose plus de brevets que les États-Unis eux-mêmes. Ils ont énormément de chercheurs, énormément d'ingénieurs, informaticiens, et ils ont le pendant. Alors on parle toujours de Google, Facebook, etc., Amazon,
les GAFA,
les voilà, fameux GAFA, mais il y a leur pendant chinois qui sont Alibaba, Tencent, Baidu, Xiaomi, Huawei, etc.
Oui, mais alors on pourrait penser à propos de la Chine, de l'ampleur de son ambition économique, de la situation actuelle, des nouvelles technologies, on pourrait penser Shanghai.
Oui,
c'est
une très bonne question parce que j'avais envisagé de le situer à Shanghai. Mais Shanghai, c'est une ville tellement moderne, tellement neuve que je trouvais ça quasiment ennuyeux, quoi. Enfin, elle est fascinante, mais c'est pas ce que je voulais faire. Hong Kong, beaucoup d'entreprises chinoises sont entrées à la bourse de Hong Kong pour avoir accès au marché international. Moi, quand j'étais à Hong Kong l'an dernier, quand je préparais, donc je faisais repérage pour M, il y avait Xiaomi, cette fameuse géant de la téléphonie mobile chinois, qui a rentré précisément à la bourse de Hong Kong à ce moment-là. Et donc je me suis dit, Hong Kong, c'est parfait, parce qu'Hong Kong, c'est une ville de Romain Noir. C'est des gratte-ciels partout, c'est 7 millions d'habitants concentré sur un tout petit territoire, en plus montagneux, avec la mer autour, mais c'est très délabré, c'est très en ruine, sorti de quelques quartiers de luxe, Kowloon en particulier. Kowloon, c'est des gratte-ciels dont on se demande comment ils tiennent debout, ils sont couleur terre, on dirait des termitières géantes. En plus, c'était la saison des pluies, il pleuvait tout le temps, c'est rouillé, il y a des conditionneurs d'air partout, c'est une espèce de super Manhattan, c'est un décor de film noir.
Donc on est vraiment, à travers votre roman, à la fois dans les quartiers d'affaires et dans les fond, quoi. On a un peu l'impression des deux extrêmes.
D'un côté, on a le fameux centre avec un C majuscule qui est en quelque sorte ce que Googleplex est à Google, ce que Menlo Park est à Facebook, c'est-à-dire un campus où se côtoient toutes les nationalités, où on fabrique à la fois le monde d'aujourd'hui et de demain, où il y a plein de jeunes gens et de cerveaux, comme on a dit. Donc ça, ce campus, il est ultra moderne, il est sur la péninsule Saïkoum, qui est une espèce de jungle préservée où on bâtit pas, pour le contraire, bordée de plages de sable blanc. Et puis à côté de ça, il y a Hong Kong, la ville, qui est une ville d'une totalement inégalitaire. Hong Kong, c'est presque la ville qu'on voit dans les films de science-fiction. C'est-à-dire, il y a les pauvres d'un côté qui sont très pauvres et les riches de l'autre qui sont très riches. Les pauvres vivent dans ce qu'on appelle des cubicles, des appartements cages, des appartements minuscules, 8 à 10 mètres carrés où s'entassent des familles entières. Et à côté, vous avez ces riches qui possèdent plus de Rolls-Royce qu'il n'y en a dans toute la Grande-Bretagne. Donc c'est un spectre extraordinaire. Et puis c'est un condensé d'humanité extraordinaire.
Donc il y a les riches, les pauvres, il y a aussi la pègre. Les triades qui déroulent comme ça leurs tentacules dans les mondes souterrains du jeu et de la prostitution. Alors on va pas rentrer dans l'intrigue, mais il y a quand même un moment précis du roman qui se déroule justement dans un grand immeuble. Alors ça, c'est extraordinaire parce que ça existe réellement, ces grands immeubles qui sont en fait des gigantesques bordels, quoi.
Mais celui dont je parle, enfin, il y en a deux. Il y en a un qui est un immeuble un peu moins haut, mais qui est très délabré, qui se trouve à Yuenlong. Yuenlong, c'est les nouveaux territoires, c'est le royaume des triades, c'est ces espèces de cités dortoirs qui sont à une heure et demie de métro de Hong Kong même, et où vont pas les touristes. Moi, j'y m'y suis rendu, mais les touristes, vous en trouvez pas là-bas. Et puis vous avez au contraire sur Lockhart Road, qui est dans Wan Chai, qui est dans le centre de Hong Kong, vous avez le fameux Fuji Building, qui est un bordel de 18 étages de maisons closes. Et là, en revanche, vous trouvez aussi des touristes, parce que il est même dans TripAdvisor, donc c'est à dire.
Ah oui, d'accord. Donc il a pignon sur rue.
Il a complètement pignon sur rue. Et c'est un truc incroyable. C'est une espèce de, on rentre là-dedans, on est des espèces de coursives roses bonbons, violets, avec des éclairages, des guirlandes qui clignotent, et puis sur les portes, c'est comme à l'entrée des aéroports. Vous avez des petits symboles qui vous indiquent interdiction de photographier, interdiction d'avoir un couteau, interdiction de c'est hallucinant. Voilà. Oui, c'est des gigantesques maisons closes verticales.
Et on rencontre à cette occasion Bernard Minier, un personnage particulièrement haut en couleur, qui s'appelle Véronica, qui est une prostituée pas tout à fait comme les autres, avec une poitrine particulièrement proéminente, mais aussi une autre particularité physique que je laisse le lecteur découvrir. Bon, vous êtes allé sur place, vous l'avez rencontré, Véronica, ou l'avez inventé? C'est un personnage complètement sorti de votre imagination.
Non, Véronica, je l'imaginais, oui, je dois dire. Non, je l'imaginais. C'est un personnage félinien. Elle est féline. Elle a toutes les caractéristiques des femmes chez Fellini, pour les cinéphiles. C'est effectivement ses poitrines opulentes, ses rondeurs, elle est haute en couleur. Après, elle a une autre caractéristique qu'on ne voit pas dévoiler parce qu'on la découvre.
Bien sûr.
C'est une surprise de plus, comme il y en a beaucoup dans le livre. Non, celle-là, je l'ai imaginée. Et c'est un petit clin d'œil aussi, c'est un petit clin d'œil à un extraordinaire auteur américain qui lui n'écrit pas du tout du polar, qui s'appelle William T. Voltman, qui est un des grands de la nouvelle génération littéraire américaine. Et elle a un surnom qu'on découvrira dans le livre, j'ose pas le dire à la radio. Ce surnom fait référence à un personnage de William T. Voltman dans un de ses romans qui s'appelle La Famille Royale.
Alors Véronica, elle est d'origine norvégienne. Il y a une autre femme très très belle d'origine norvégienne aussi qui fait partie de l'équipe d'intelligence artificielle de Ming. Vous avez une fascination particulière pour les Norvégiennes?
Non, je sais pas, j'étais en Norvège il y a pas si longtemps que ça pour un autre roman qui était Nuit. Peut-être qu'il m'en est resté quelque chose, je sais pas, je sens me rendre compte, ça doit être quelque chose d'inconscient. Vous savez, la création littéraire, dans la création toujours, il y a une bonne part de processus inconscient. Tout le monde le sait.
Bon, en tout cas, la première chose dont Moira est consciente lorsqu'elle débarque à Hong Kong, c'est la chaleur, c'est la moiteur de cette ville. Vous parlez d'un hammam à ciel ouvert, c'est très humide, c'est très pluvieux, parfois orageux. Dans la dernière partie du livre, il y a un cataclysme climatique qui arrive, qu'on sent venir déjà.
Oui, un typhon, depuis le début.
Un typhon. C'est vrai qu'un thriller, c'est vraiment un roman d'atmosphère. Est-ce que la météo, c'est une question qui va vous sembler complètement folle, mais est-ce que la météo est un allié du romancier?
Bah non, c'est pas du tout une question. Non, c'est une question tout à fait pertinente. D'autant que depuis mon premier roman, qui s'appelait quand même Glacé, faut le dire, la météo a toujours joué un rôle très important dans mes romans. C'est peut-être une caractéristique d'ailleurs, parce que j'en ai souvent parlé avec mes confrères qui ne fonctionnent pas comme moi. Moi, je fonctionne toujours avec dès le départ pour avoir une idée. Il me faut un décor, une atmosphère et un climat. Et ça, c'est toujours comme ça. Ça a été avec Glacé, c'était les Pyrénées en hiver, dans cette vallée isolée dans la neige. Dans Une putain d'histoire, ça se passait au large de Seattle, dans des îles où il pleut tout le temps. Seattle, c'est la ville la plus pluvieuse des États-Unis. Et là, on est à la saison des pluies, donc c'est la mousson, il pleut, il fait très chaud, c'est très moite. Donc non, moi je suis un romancier climatique. Comme il y a les réfugiés climatiques, c'est moins drôle, mais moi, le climat a toujours une importance considérable dans mes romans.
Et dans ce cadre, c'est important pour vous d'aller réellement sur place. Vous pouviez pas rester chez vous tranquillement en France devant votre ordinateur à utiliser un programme informatique que tout le monde connaît bien. Vous aviez besoin de vous plonger dans la moiteur de votre décor, dans la moiteur de Hong Kong.
Je conçois pas de faire autrement. C'est totalement exclu de ne pas me rendre sur place. Tous les lieux que je décris, je me rends.
Parce que les nouvelles technologies que vous décriez tant dans le roman permettent aussi justement.
Justement non, parce que quand on est sur place, quand on découvre la ville et quand on découvre les gens et quand on se rend compte de tout ce qu'on aurait loupé si on n'était pas venu là, si on s'était contenté d'aller sur Google par exemple. Non, je peux pas concevoir que. Moi j'ai toujours fait ça. Les seules fois où je n'ai pas pu me rendre sur place, c'est dans N'éteins pas la lumière, où il y a les mémoires d'une spationaute qui se rend dans la station spatiale internationale. Là, c'était quand même
un peu plus compliqué. Vous n'avez pas la bonne carte.
Voilà. Et moi, je pense que ça aurait été quand même très difficile. Ou alors, il faudrait que je m'appelle Thomas Pesquet. Et la deuxième fois, c'était sur la plateforme en mer du Nord, dans Nuit, qui se passe en Norvège, précisément, où c'était tellement compliqué. Il y avait tellement de mesures de sécurité. Il y avait tellement de démarches à faire que j'ai fini par me contenter de vidéos d'ouvriers qui travaillaient sur la plateforme, qui les mettent en ligne sur YouTube, de blogs. Ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que tout le monde tient un blog et tout le monde parle de son métier. Donc ça a été quand même une mine d'or. Internet, ça peut servir aussi à ça, même si je le critique souvent. Mais sinon, il y a des tas de choses qui vous échappent si vous n'allez pas sur place. C'est impossible de.
Donc le Ritz-Carlton, qui est l'hôtel qui est considéré, en tout cas c'est comme ça que c'est affiché dans la pub, comme l'hôtel le plus haut du monde, vous vous êtes payé une petite nuit là-bas avec votre ordinateur, vous pouvez d'ailleurs.
À la chambre 113, au 113e étage. Oui, j'ai séjourné, je crois, même plus d'une nuit, oui. Dans cette fameuse chambre 113-16 qui existe, qui est au 113e étage, l'hôtel le plus haut du monde et où on domine absolument tout Hong Kong parce que c'est aussi l'immeuble le plus haut de Hong Kong. Il faut savoir qu'à Hong Kong, il y a 7000 tours d'habitation, il y a plus de 300 gratte-ciel qui dépassent les 40 étages. Donc, pour avoir un ordre de comparaison, ils sont 18 à Paris, je crois. Voilà, et malgré tout, quand on est dans ce Ritz-Carlton, on a l'impression d'être suspendu dans le ciel et on voit. Je me rappelle, je regardais parce que il se trouve que mon éditeur se trouve dans la tour Montparnasse, donc je regardais des immeubles qui étaient en contrebas que je trouvais relativement petits et je me suis amusé à compter les étages. Il y en avait autant qu'à la tour Montparnasse, donc on était vraiment dans les nuages.
Hãy 如不算是擅长，而八岁时候又却真心爱上，尝遍各地好菜，名贵气味色香，难在我妈妈的一锅醋菜之上，难与美食比较，但有一种温馨无双，最错乱之情能平复不好心情酝酿，陪我笑着过未够
s'appelle Tang Xuhao, c'est elle qui est actuellement en tête des charts hongkongais. VMDN sur RFI avec Bernard Minier pour son nouveau thriller dont l'action se passe donc justement à Hong Kong. Alors c'est un thriller avec une enquête policière, il y a notamment deux flics, hein, l'inspecteur Chan et son acolyte Elijah qui sont sur les traces d'un tueur en série, un tueur de jeunes femmes que Chan a surnommé le prince noir de la douleur. Bon, c'est un sadique, c'est un fou dangereux, on a l'impression que son but c'est pas seulement de tuer, c'est surtout de faire souffrir Bernard Minier.
Oui, bah c'est oui, il a toutes les caractéristiques du sociopathe et du sadique. Donc le sadique évidemment prend plaisir à la douleur des autres, à la souffrance des autres. Mais ce qui est important concernant ce prince noir de la douleur, comme ils l'ont surnommé, c'est sans aller trop loin dans le dévoilement, c'est que très rapidement ces deux policiers hongkongais vont s'apercevoir que ces victimes, déjà, il faut le dire, avec toutes pour point commun d'avoir travaillé à un moment ou à un autre chez Ming, et très vite les policiers vont comprendre qu'elles étaient toutes connectées, comme tous les employés de Ming, comme beaucoup d'entre nous. Donc elles avaient un téléphone, elles avaient une tablette, elles avaient une enceinte, etc. Elles avaient un bracelet.
Donc elles ont un fil à la patte. Quoi.
Et très vite on comprend en effet que ce prince noir de la douleur est sans doute un employé de chez Ming et qu'il s'est servi de toutes les données, puisque ça aussi un des sujets du livre, le big data, les milliards de données qu'on envoie dans le cloud. Il s'est servi sans doute de toutes ces données pour sélectionner ses victimes, pour voir si elles étaient solitaires ou si elles ont du monde autour d'elles, pour voir si elles sont prudentes ou imprudentes, pour voir un peu leurs habitudes de vie. On comprend très vite que ces données ont été utilisées dans ce but-là.
Alors Ming, précisément, on va y venir. Donc on évoquait tout à l'heure ces GAFA chinois, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Est-ce que ce sont ces boîtes-là qui ont servi de modèle à la création de votre Ming à vous?
Oui, complètement, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis inspiré de plusieurs entreprises chinoises qui existent. Après, moi, j'ai fait mon travail d'imagination.
Vous avez mélangé tout ça et vous avez créé aussi pour une part de l'intrigue.
Je vais au-delà, mais oui, même Ming lui-même, Ming Jianfeng, qui est le patron, qui est le big boss, qui est le fondateur et un peu une légende dans le milieu, est inspiré de certains grands manias de l'internet chinois, comme Jack Ma, comme d'autres, comme le patron de Huawei dont j'ai oublié le nom. Et oui bien sûr, je pars toujours d'une réalité. J'aime m'appuyer sur ce sol, sur cette réalité pour construire mes intrigues et parler du monde réel. C'est ça qui est important. Ça reste réaliste. C'est pas du tout de l'anticipation. C'est pas de la science-fiction. C'est un thriller contemporain qui parle de quelque chose qui existe déjà.
Mais donc c'est important pour vous que le lecteur, en lisant ce roman, se retrouve dans la réalité. C'est une question de crédibilité.
Ben oui, puis c'était l'idée. C'est je me suis penché sur ce sujet parce que j'en entendais parler comme tout un chacun tout le temps. On en parle à la radio, on en parle à la télé, on en parle dans les journaux. Et j'ai voulu partager ce que j'avais découvert, parce qu'au bout d'un moment, j'avais un panorama très, très large et très, très complet de ce qui se passait. Et j'avais envie de le partager avec mes lecteurs. Et quelle meilleure manière pour le... que le partager à travers une fiction, ce que je sais faire.
Mais pourquoi pas une science-fiction?
Parce que ce qui m'intéresse, c'est de parler d'aujourd'hui, de ce qui se passe maintenant. Je suis pas un auteur de science-fiction, je suis un auteur de polar, je suis un auteur de thriller. C'est le monde réel qui m'intéresse. C'est pas un monde fantasmé, c'est un monde qui existe. Toutes les technologies qui sont décrites dans le livre existent déjà ou sont en cours de développement. À part peut-être avec quelques nuances un peu Deus, qui est quand même un chatbot, on va y venir, un agent conversationnel. Ouais. Très, très, très développé. Mais il faut pas se leurrer. Aujourd'hui, il y a une course entre les géants de l'Internet pour sortir le chatbot le plus performant possible parce qu'ils savent que c'est le prochain enjeu. Il y a un principe dans l'économie numérique, c'est que le numéro un l'emporte. Le numéro un apporte tout. Donc, à partir du moment, quand Facebook est arrivé sur le marché des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, il a écrasé toute la concurrence. Quand Google est débarqué dans le marché des moteurs de recherche, il a écrasé la concurrence, et le prochain qui sortira le chatbot ultime va écraser la concurrence. Donc il y a une course là-dedans.
Alors c'est quoi un chatbot exactement, Bernard? Assistant virtuel.
C'est ça, oui.
Un agent conversationnel.
Oui, il y a plusieurs termes.
Voilà, alors donc pour faire simple, on va citer quelques marques, mais j'ai le droit d'en citer quand il y en a plusieurs. Donc il y a Siri chez Apple, il y a Google Assistant, et puis il y a Cortana chez Microsoft.
Mais c'est ça, et puis Alexa aussi.
Alexa
chez
aussi.
Amazon.
Chez Amazon, voilà. Donc ce sont des machines qui dialoguent avec l'être humain.
C'est ça, ce sont des agents qui interagissent avec l'utilisateur à travers ce qu'on appelle le langage naturel, c'est-à-dire le langage humain, contrairement au langage machine. Et donc,
comment ça marche?
Vous leur posez des questions et répondre en fait.
Oui, mais très bien. Bon, vous n'êtes pas technicien et spécialiste en informatique, en intelligence artificielle, mais expliquez-nous quand même comment ça marche. Quand on les nourrit d'informations, ils gavent tout, quoi. Ils se gavent de toutes les informations personnelles.
Alors, ils sont basés sur quelque chose qu'on appelle l'apprentissage machine. L'apprentissage machine, c'est de la programmation, mais ce sont des programmes qui apprennent tout seuls. C'est des algorithmes, au fait, qui sont programmés une bonne fois pour toutes, et ensuite on ne les reprogramme pas, on ne les corrige pas. La machine apprend d'elle-même, ou le programme, ou appelez-le comme vous voulez, les algorithmes apprennent d'eux-mêmes, ils corrigent leurs propres erreurs et ils progressent très vite. Bill Gates a dit qu'il fallait jamais rire d'une intelligence artificielle jeune, parce que c'est quelque chose qui apprend très vite. Et c'est basé aussi sur ce qu'on appelle le deep learning. Le deep learning, ce sont des couches de neurones formels. Qu'est-ce que c'est qu'un neurone formel? C'est des algorithmes, là aussi, qui imitent grossièrement le fonctionnement du cerveau.
Donc ils peuvent analyser ces chatbots, ils peuvent s'adapter et progresser d'eux-mêmes.
Et apprendre très vite. Et la grosse différence entre un réseau de neurones formels et notre cerveau, c'est qu'ils sont implantés dans des ordinateurs aux puissances de calcul de plus en plus considérables, et qu'ils puisent l'information dont ils ont besoin dans les milliards et les milliards de données du big data, ce que évidemment aucun cerveau humain ne peut faire.
Alors le chatbot de Ming s'appelle Deus, ce qui est déjà une façon de marquer l'ambition de cette immense entreprise chinoise. Et le job de votre héroïne Moira, c'est de s'occuper de Deus. Et voici comment le nouveau chef de Moira, qui est un Irlandais qui travaille pour Ming, alors il a tous les attributs d'Irlandais, il est barbu, il est rouquin, il s'appelle Lester. Voici comment Lester donc décrit le rôle de sa nouvelle recrue Moira. Nous sommes page 94 de votre livre.
Qui aurait pu prévoir la façon dont les téléphones portables changeraient nos vies quand le premier Motorola est apparu sur le marché? Et il a fallu moins de 5 ans entre le moment où Zuckerberg a conçu Facebook dans sa chambre d'étudiant et celui où Facebook est devenu le premier réseau social de la planète. On estime que 75% des Américains auront un assistant virtuel d'ici à 2020. Ceux qui en possèdent déjà un reconnaissent qu'ils ne peuvent plus s'en passer. Les équipes de Google, de Facebook, d'Apple, d'Amazon, de Microsoft, tout comme les Chinois Tencent et Baidu, cherchent à créer l'assistant virtuel qui balayera la concurrence. Deus sera le plus puissant de tous. Si puissant que, après l'avoir testé, les gens en auront besoin à chaque instant de leur vie et le laisseront prendre les décisions importantes à leur place. Alors c'était bien vrai ce qui se disait. Elle sentit son pouls s'affoler. Les yeux de Lester semblaient éclairés de l'intérieur. Et elle reconnut cette lueur pour l'avoir déjà rencontrée. Pour des hommes tels que Lester, l'IA était une religion. Imagine un agent conversationnel qui aura la réponse à toutes tes questions, continua-t-il d'une voix vibrante, qui te connaîtra bien mieux que tu ne te connais. Deus sera capable de te dire si tu dois sortir avec Pierre ou avec Jacques, parce qu'il saura que Jacques te fait rire, alors que Pierre te rend triste, même si tu es plus attiré par Pierre que par Jacques. Il saura si tu dois travailler dans la banque ou dans l'informatique, si tu dois faire du vélo ou de la natation, si tu dois étudier le droit ou la médecine, si tu dois te marier ou pas, et comme ça pour les millions de questions qu'on se pose tous dans notre vie quotidienne, de l'adolescence à la mort, les dizaines de choix qu'on a à faire chaque jour, thé ou café, sport à la télé ou série, jean ou robe, Game of Thrones ou Doctor Who, accepter cet emploi ou en chercher un autre, croire ta fille quand elle te dit qu'elle est malade ou l'envoyer à l'école. Parce que Deus aura tout noté jour après jour et que contrairement à toi, il n'oubliera rien et il ne sera jamais fatigué de t'entendre, de te conseiller, de te guider. Il n'aura jamais envie de t'envoyer sur les roses, comme tes amis, ton conjoint ou tes enfants, de te dire que décidément tu es insupportable. Sans rien attendre en retour, il sera là pour toi, quelle que soit l'heure et l'endroit. Le plus fidèle, le plus digne de confiance, le plus intelligent, le plus fiable des compagnons. Et tu ne pourras plus te passer de lui.
Comme ça a l'air beau, hein. Deus dans la bouffe de ce personnage, Lester Bernard Minier. Ne plus pouvoir se passer de Deus, et plus globalement, ne plus pouvoir se passer de tous ces outils technologiques qui savent tout de nous, qui nous espionnent, on y est déjà ?
Bah, bien sûr qu'on y est. De toute façon, c'est la grande spécialité de ces géants de l'internet, c'est de la séduction dont ils enrobent leurs applications, le fait qu'ils nous rendent de plus en plus accros à ces applications.
Donc, et de générer des besoins dont on n'avait pas forcément idée quelques minutes avant.
Inventer des besoins qui n'existaient pas et nous faire passer surtout le plus de temps possible sur ces applications et sur leurs outils, parce que c'est ça, vu qu'ils vivent de la publicité, vu qu'il c'est le principe de Facebook qui veut le maximum de likes, le maximum de posts, le maximum de temps passé sur, et cet agent conversationnel, ça a l'air comme ça assez incroyable, mais ils sont en train de le développer. Les gens de l'internet sont en train de le préparer. C'est une sorte de super Waze. Regardez Waze qui n'existait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, quand on met Waze dans sa voiture, on prend toute la même petite rue à Paris qu'avant personne n'aurait songé à emprunter. C'est quand même extraordinaire. Waze décide pour nous de la façon et de l'endroit où on doit aller et de la façon dont on doit en conduire. C'est une sorte de Waze à l'échelle de la vue humaine.
Ça veut dire, Bernard Minier, qu'on est en train de construire à l'échelle du monde une société d'assistés.
Bien sûr. Et surtout, la question, c'est celle du libre arbitre. Est-ce qu'on est prêt à renoncer à notre libre arbitre? Est-ce qu'on est prêt à laisser des machines, des applications, des programmes, des algorithmes décider à notre place, faire des choix à notre place? Parce que aujourd'hui, ces assistants conversationnels qui sont de plus en plus performants et qui vont l'être immensément plus d'ici 5 ans, parce que tous les géants de l'internet en développent, les améliorent de jour en jour et ça va très très vite. Comme il est dit dans l'extrait de texte qu'on a entendu, Facebook, entre le moment où Zuckerberg l'a imaginé dans sa chambre d'étudiant et le moment où c'est devenu le premier réseau mondial, il s'est passé 5 ans. C'est pas beaucoup, 5 ans.
Ça va
donc,
très vite.
Donc imaginez qu'on introduise des biais, c'est-à-dire des backdoors et qu'on dise aux gens pour qui ils doivent voter ou en tout cas qu'on les influence dans leur choix. Quand on voit ce qui se passe sur Facebook aujourd'hui, c'est un peu ça. Les gens s'influencent les uns les autres. C'est pas encore Facebook ou une entité supérieure qui leur dit de voter. Mais l'élection de Trump, l'élection de Bolsonaro au Brésil, c'est pas plus tard que récemment l'entrée de Vox, ce parti d'extrême droite, au Parlement espagnol, c'est la conséquence de quoi? Ce sont des mouvements et des personnalités qui ont monté grâce à Facebook, grâce aux réseaux sociaux. Donc on y va petit à petit.
Oui, et ce que vous expliquez aussi, et ça c'est très intéressant parce qu'on s'en doute pas forcément si on réfléchit pas, c'est que Facebook propose aux internautes des pages qui renforcent leur propre conviction au départ. C'est-à-dire qu'on est en train de tuer l'esprit critique des internautes.
C'est ça qui est terrible, ça s'appelle une bulle de filtrage. C'est-à-dire qu'ils filtrent les informations que reçoit chaque utilisateur en fonction de ses likes précédents, de ses posts précédents. Donc au fond, vous ne faites que des amis avec des gens qui pensent la même chose que vous, et vous ne voyez dans vos fils d'actualité plus ou moins que des informations qui confirme ce que vous pensez déjà, ce qu'on appelle un biais de confirmation. Hein. C'est pour ça que les gens de droite lisent la presse de droite, les gens de gauche lisent la presse de gauche, parce qu'ils ne cherchent pas une information objective, ils veulent une information qui les confirme dans ce qu'ils pensent déjà. Sauf que dans les réseaux sociaux, ça a des conséquences considérables.
Mais faire ce que votre personnage Moira doit faire avec Deus, c'est-à-dire introduire dans l'algorithme une part d'émotion, une part d'affection, voire d'affectivité, c'est quelque chose qui est réaliste, qui existe déjà aujourd'hui.
Mais bien sûr, ça s'appelle.
On peut faire vivre des émotions à un algorithme.
Mais c'est des, mais enfin, on peut, en tout cas.
Faire vivre, c'est pas le mot, mais.
Simuler. Et surtout, ce qui est important, l'algorithme comprend les émotions humaines à travers, parce que vous avez des logiciels d'analyse faciale, etc., à travers les pupilles, la dilatation des pupilles, à travers le ton de la voix, à travers plein de choses, il arrive à comprendre les émotions humaines, à les assimiler et à les reproduire. Mais ça existe déjà, ça c'est même une discipline qui porte un nom, ça s'appelle l'Internet des émotions. En anglais, affective computing. Et ça existe déjà, il y a déjà des spécialistes d'affective computing qui sont, dont la tâche et d'introduire de l'émotion, de l'affectif, de l'empathie dans toutes ces applications pour les rendre évidemment encore plus addictives.
Mais c'est aussi ce que fait un écrivain comme vous, Bernard Minier. Vous introduisez aussi dans votre livre des informations et des émotions. Et vous voulez que le lecteur les vive aussi.
Mais je suis entièrement d'accord avec
ça. Vous êtes le Deus de la littérature.
Le truc, c'est que moi, j'ai juste mon pauvre cerveau. J'ai pas d'intelligence artificielle derrière moi. Donc, avec toutes les limites que cela comporte. Mais oui, bien sûr que je joue sur les émotions. Un thriller, c'est comme son nom l'indique. C'est à base d'émotions dont la première est la peur, mais aussi tout un tas d'autres émotions. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus facile de faire entrer une idée dans un cerveau par le biais d'une émotion que par le raisonnement. Le raisonnement, ça a jamais fonctionné. L'émotion, ça fonctionne toujours.
Donc et vous êtes un manipulateur.
Mais bien sûr, je manipule mes lecteurs en permanence. Et mes lecteurs sont très contents d'être manipulés. C'est ça le truc. C'est qu'ils savent très bien qu'ils le sont, mais ils acceptent la règle du jeu. Parce qu'au fond, moi, ce que j'essaie de faire, c'est faire en sorte que mes lecteurs vivent ce que vivent les personnages. Qu'ils éprouvent ce qu'éprouve Moira dans le livre. Qu'ils ressentent ce que ressentent les personnages. Et quand ils referment le livre, ils ont l'impression d'avoir vécu quelque chose avec le personnage.
Et c'est dans cette optique-là, Bernard Minier, c'est juste une petite curiosité, mais c'est vrai que c'est assez frappant quand on découvre vos livres, c'est que vous mettez énormément de marques. Pas seulement des marques de produits informatiques, en lien avec votre sujet principal, mais des marques de vêtements, des marques de chaussures, des objets du quotidien. C'est précisément dans l'optique que lecteur s'identifie à vos personnages?
Oui, tout à fait. Mais il y a non seulement des marques, mais il y a plein de détails. Il y a plein de détails qui font qu'on ait, par exemple, des détails géographiques, des détails physique sur Hong Kong. Quand on se balade dans Hong Kong, on peut quasiment identifier la rue dans laquelle Moira marche à travers certains détails, pour ceux qui connaissent la ville. Je vous assure que j'ai aucun contrat avec les marques.
Il n'y a pas de placement de produits dans les romans de Bernard Minier.
Non, il n'y a aucun placement de produits. Non, il n'y en a pas. Zéro. Ce qui était, oui, je sais que ça s'est fait dans le passé. Je me rappelle, moi, quand j'avais 14 ans, 15 ans, comme tous les ados de mon âge, je lisais SAS de Gérard de Villiers. Il y avait quelques placements de produits. Je me rappelle en particulier du champagne Moët et Chandon, dont abusait le personnage principal.
Oui. Ce qui prouve que c'est assez efficace finalement.
Mais il n'y a aucun placement de produit. Du reste, je crois que ça doit changer de marque tout le temps, donc ça serait pas très efficace.
I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, yeah. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside E. And still
say what you say.
Thank God for what's happening right now. It might not be good, but thank God
I do.
They wish and I wish and I wish and I wish and they wish on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. Tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, yeah. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside E. And still bad things, it's a lot of bad things that they wish and 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 on me.
Yeah, that's right. Look, yeah, you got the right idea.
Bad things, it's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Yeah. Hey, hey.
She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, ayy, nope. Someone watching this shit close, yup, close. I've been me since Scarlet Road, ayy, bro, ayy. Might go down as G-O-D, yup, wait. I go hard on Southside G, ayy, wait. I make sure that Northside E, yeah. And still.
God's Plan, Drake sur RFI. Et cette chanson, c'est l'une des chansons préférées de Moira, votre héroïne, Bernard Minier. Et c'est avec elle, et avec une autre qu'elle découvre, et le lecteur en même temps qu'elle, à quel point, avant même d'intégrer cette fameuse société géante chinoise intitulée Ming, à quel point Ming la connaît déjà et la connaît très bien.
Ouais, il la connaît essentiellement à travers son téléphone, à travers tout ce qui lui permet d'être connecté, et c'est ce que font ces géants d'internet qui aspirent toutes nos données. Alors, ce qui est terrible, c'est que on livre notre vie privée, on livre nos données, parce que quand on utilise son téléphone pour tout, quasiment tout aujourd'hui, et qu'on communique avec ses amis, avec ses amours, à travers son téléphone, il faut savoir que toutes ces données, elles partent dans le cloud. Et elles sont exploitées, parce qu'aujourd'hui la puissance de calcul des ordinateurs et la finesse des algorithmes permettent de chercher des millions d'aiguilles dans des milliards de boîtes de foin.
Et pourtant, quand vous cliquez sur un site internet pour la première fois, là, depuis quelques mois en Europe, vous avez toute une notice où on vous demande de renoncer aux droits.
Oui.
Voilà, de dire OK, on accepte effectivement cet accès aux données. Donc ça veut dire que on a renoncé.
Mais la plupart du temps, on accepte. Hein. Quand on veut avoir l'information qui est derrière, on dit OK, et donc à partir de... Ça veut dire qu'on ouvre la porte, finalement. On file la clé et on ouvre la serrure.
Donc nous sommes complices.
Donc, plus ou moins, disons qu'on n'a peut-être pas totalement conscience de l'ampleur que ça prend. Aujourd'hui, c'est des milliards et des milliards de données. C'est toute l'humanité qui est connectée, ou presque, hein, sur tous les continents. Tout le monde a des téléphones. Et il y a quand même 2,5 milliards d'utilisateurs de Facebook, hein, sur la planète. Et toutes ces données vont dans le cloud, et ça pose d'énormes questions de sécurité, déjà, et de confidentialité. Faut savoir que le cloud, c'est un nom un peu éthéré, on a l'impression
que c'est très poétique,
qui flotte. C'est une infrastructure matérielle qui se trouve très souvent physiquement. C'est ces fameux data centers, ces immenses hangars où il y a des milliers de serveurs comme ça, qui déjà sont extrêmement polluants, parce qu'ils consomment l'électricité de villes entières, hein. Le plus gros data center de Google consomme l'équivalent de la ville de Newcastle, c'est-à-dire, il y a quand même plus de 7500 data centers dans le monde. Et en plus, ils sont implantés physiquement dans des pays qui souvent n'ont pas la même législation par rapport à la protection des données personnelles que la nôtre. Donc ça pose, nos propres données vont dans ces pays-là, et ensuite qu'est-ce qu'on en fait ?
Bon, vous êtes intarissable, vous êtes devenu un vrai spécialiste de la question. Oui. Comment est-ce que vous êtes documenté, Bernard Minier ? Parce qu'une petite bibliographie à la fin, elle est déjà conséquente, mais on se dit, mais vous savez tout sur tout. Enfin, c'est extraordinaire le nombre de domaines que vous avez dû explorer pour écrire ce roman.
Ah ouais, ça a été un gros chantier, oui. C'est sans doute le plus gros chantier à ce jour, ce roman-là. La bibliographie, en fait, elle fait à peine la moitié de ce que j'ai lu, hein. Mais je me souviens d'une parole de mon éditeur qui me disait, si tu mets tout, on va jamais croire que t'as lu tout ça. Donc j'ai diminué la liste par deux. Puis il y a des livres que j'ai ouverts et que j'ai fermés assez rapidement. Mais oui, je me suis documenté. C'était un très gros chantier. C'est des mois et des mois de travail. Un livre, c'est un peu un iceberg. Il y a la partie émergée, c'est ce que voit le lecteur, c'est ce qu'il lit. Et puis il y a tout ce qui est sous la surface, qui porte le livre, sans quoi le livre ne pourrait pas exister, mais qui reste invisible. Moi, je connais tout ça. C'est aussi valable pour les personnages. Je connais plein de choses. Mais il y a ce que le lecteur va lire, il y a tout le reste.
Voilà, et je précise que vous parlez sans notes, hein, depuis le début de cette émission. Vous n'avez pas une petite fiche
ou rien du tout.
Bon, je voudrais quand même vérifier quelques points précis, parce que moi, quand j'ai lu le bouquin, je suis allé voir précisément après sur Internet, en utilisant un moteur de recherche. Bon, voilà, je plaide coupable. Si c'était vrai, effectivement, quand vous dites que tout ce que vous décrivez est vrai. Par exemple, il y a Electra, ce célèbre robot qui participe à une conférence. Oui. Vous la mettez en scène d'une conférence qui se passe à Hong Kong. Bon, j'ai pas trouvé Electra, mais il y a un de ses épigones, quoi.
Je crois que c'est dit à la fin du livre, je le dis, en fait, Electra s'appelle Sophia, dans la réalité. Et Sophia, c'est un robot qui a été fabriqué par une entreprise hongkongaise, justement, qui s'appelle Hanson Robotics, qui a donc toute la, un peu la, l'allure d'une personne humaine. On voit bien que c'est un robot, hein, c'est pas non plus. Enfin, le visage, il y a,
une espèce de. Il y a un faciès, une femme assez belle, mais on voit effectivement
les yeux
sur la boîte crânienne que.
Mais elle arrive à avoir des expressions très humaines, elle sourit, le regard, des fois, est assez malicieux, assez impertinent. Elle, et puis elle répond aussi. Elle a aussi le sens de l'humour, donc elle répond par des boutades. Après, c'est un sens de l'humour de robot, donc on n'est pas forcément.
Bon, il y a encore des progrès à faire de ce point de
vue. Oui, heureusement, mais ça va très vite, hélas. Alors, ou tant mieux.
Bon, il y a aussi ce dispositif, on peut le dire parce qu'on est au début du, est au début du roman, c'est ce dispositif de stimulation cérébrale que le premier personnage qu'on découvre, hein, qui est une jeune femme qui va se suicider, on est vraiment dans le premier chapitre, a implanté dans le cerveau, quoi. C'est une sorte d'antidépresseur technologique,
ouais.
Quoi.
Oui, en fait, elle va se suicider, elle va sauter d'une terrasse, elle va se manger 30 étages, puisqu'on est à Hong Kong, c'est malheureusement à Hong Kong, c'est un des modes de suicide les plus fréquents.
Mais ça existe ces électrodes directement branchées sur le cerveau comme ça.
Ah, ce dispositif est en cours d'études à la fois à Tel Aviv et en France. Oui, il y a des dispositifs comme ça. Ce sont des électrodes implantées dans le lobe frontal, qui est je suis pas un spécialiste du cerveau non plus, mais enfin bref, qui est la zone des émotions et qui est reliée par des fils à une batterie et une sorte de mini calculateur dans la poitrine, qui est dopé à l'intelligence artificielle, on y revient, et donc en fonction de qui analyse un peu vos émotions et qui envoie des impulsions, et c'est un dispositif qui est testé depuis déjà plusieurs années à la fois en France et en Israël.
Voilà, et donc qui est aussi utilisé par Ming
à son propre dispositif.
Alors Ming, donc c'est une boîte qui porte le nom de son patron qu'on évoquait tout à l'heure, fortune du patron 290 milliards de yuan, excusez du peu, une société enregistrée aux îles Caïmans, pas complètement fortuit non plus, c'est un personnage très secret, un personnage assez mystérieux que Moira va rencontrer, et il évoque à plusieurs reprises, Bernard Minier, ce qu'il appelle l'esprit de conquête, ce qu'on appelle en chinois, j'espère que je le prononce pas trop mal, le zushuku. Est-ce que cet esprit de conquête-là, c'est quelque chose que vous avez constaté effectivement sur le terrain, et est-ce que on joue dans la même cour, nous occidentaux, par rapport aux chinois?
Ah non, on joue pas du tout dans la même cour. De toute façon, je pense qu'il y a suffisamment de spécialistes de ces questions-là pour en parler. Oui, l'esprit de conquête, il existe de plus en plus. La Chine rachète de plus en plus de terres, d'entreprises, de tout. Ils ont 3000 milliards, je crois, de dollars d'excédent. Donc c'est quand même une réserve extraordinaire pour acheter tout ce qu'ils veulent. Ils achètent des terres en Amérique latine et en Afrique. Ils sont très très de plus en plus implantés en Afrique, hein, dans pas mal de pays africains, y compris dans la fameuse zone francophone, qui était jusqu'à présent le précaré là, plus ou moins de la France. Mais aujourd'hui, les Chinois sont de plus en plus présents.
Oui, mais il n'y a pas que l'argent, justement, puisque là, il est question d'intelligence, de science. Est-ce que réellement... Ils sont plus forts que nous, grâce à cet esprit de conquête.
Ils ont développé depuis pas mal de temps dans l'éducation. Et ils ont centré l'éducation sur les sciences, sur les mathématiques, sur tout un tas de choses. Aujourd'hui, il faut savoir que la Chine et les pays et pas mal de pays de l'Asie du Sud-Est aussi sont bien mieux placés que la France dans le classement PISA pour ce qui est des mathématiques, et que les petits Chinois et aussi les petits Coréens et les petits Hongkongais battent les petits Français à plate couture, hein, concernant ces domaines-là. Donc ils ont de plus en plus d'ingénieurs, ils ont de plus en plus de chercheurs. Comme je l'ai dit, ils sont leaders de la recherche et du développement dans le monde. C'est le premier pays pour déposer des brevets devant les États-Unis. C'est le premier détenteur de données numériques. C'est le premier fournisseur de publications scientifiques. Aujourd'hui, c'est plus les États-Unis, c'est la Chine.
Nous sommes au bord de l'abîme, Bernard Minier.
La question, c'est de savoir est-ce qu'on va faire un pas de plus ou est-ce qu'on va faire un pas en arrière. La question est là.
Mais on peut faire un pas en arrière, c'est envisageable ça dans l'histoire de l'humanité?
Non, en fait non, parce que là où la science passe, il n'y a jamais de retour en arrière possible. On voit avec Internet, on pourrait pas débrancher Internet aujourd'hui, même si on le voulait. Donc la question, c'est qu'il y a un train, il est lancé à toute vitesse. Les États-Unis, la Chine et l'Asie sont déjà montés dedans. Est-ce qu'on va monter dans ce train? Et surtout, dans quelles conditions on va le faire? La question est là.
Merci beaucoup, Bernard Minier, d'être passé nous voir.
Merci à vous.
M, le bord de l'abîme, votre nouveau thriller, est paru, je le rappelle, chez XO Éditions.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Ren Hang, le nom de ce photographe chinois, vous dit peut-être quelque chose. Son suicide il y a 2 ans a ému de nombreux jeunes artistes à travers le monde qui suivaient notamment son travail sur les réseaux sociaux. La Maison Européenne de la Photographie à Paris lui consacre en ce moment une grande rétrospective et notre reporter Fanny Blechner l'a visité pour nous.
Dans la première salle de l'exposition, de grandes photos ou décors s'enchevêtrent en des constructions très graphiques, comme des gravures de mode, mais sans vêtements. Six mains aux ongles peints d'un rouge vif qui cachent une poitrine ou semblent fourmiller dans un entrejambe. Des chevelures de femmes aussi, longues et sombres, qui se tissent en une tresse qu'elles forment à trois. Les corps sont nus, mais pas sexualisés, explique Simon Baker, directeur de la MEP et co-commissaire de l'exposition.
En fait, il est plus intéressé sur les formes des corps que de érotisme. Il a vraiment fait les jeux avec les corps. Il a essayé de trouver les formes intéressantes, les formes qui parlent à lui. Ou sinon, il a mélangé plusieurs mains ou plusieurs bouches ou plusieurs éléments des corps différents pour créer une sorte de performance ou une sorte de nouvel corps.
Ce qui fait la spécificité du travail de Ren Hang, c'est aussi le contraste entre la grande précision de ses œuvres humaines géométriques et le peu de moyens dont il disposait.
Il a travaillé normalement dans un petit appartement loué pour le shooting, trop modeste à Pékin, les petits appartements. Il n'a pas grand chose, il a un petit appareil Minolta argentique, il n'a pas des assistants, il n'a pas de l'éclairage professionnel. Il a fait toutes ses photos avec les moyens très très pauvres. Quand on voit les photos, les icônes incroyablement beaux avec les animaux, avec les mannequins, c'est vraiment incroyable de penser qu'en fait c'était fait comme ça. Comme ça, on peut dire que Ren Hang, il est un peu alchimiste. Il a vraiment rien. Avec rien, il a créé une poésie incroyable.
Les mannequins sont ses amis, son petit copain ou encore des gens qui ont répondu à ses appels sur les réseaux sociaux. Son utilisation du flash donne aussi aux couleurs une force très particulière.
Il a souvent utilisé un rouge très très fort dans le maquillage des mannequins ou sinon dans les éléments, les objets à côté des corps. Dans les photos de la nuit, il a beaucoup de choses vertes, des lotus, des plantes dans les jardins. On peut dire que Ren Hang, il a une conscience à couleur assez impressionnante.
Ces photos dans les parcs sont prises très rapidement avant que la police n'intervienne. La censure est très forte en Chine. Les tirages montrés dans l'exposition sont ceux qu'il avait choisi de réaliser de son vivant, plus acceptables. Une dernière salle présente ces photos plus crues. Pour autant, la renommée de Ren Hang, mort à seulement 29 ans, dépasse les frontières du pays.
Il n'est pas du tout un artiste qui a essayé de copier les artistes occidentaux. Il est vraiment chinois, mais il est vraiment aimé par les photographes, les artistes en Europe, aux États-Unis, n'importe où. En fait, il a touché tout le monde.
De nombreux jeunes à travers le monde se sont d'ailleurs fait tatouer une photographie très connue de Ren Hang qui a été choisie pour représenter l'exposition. C'est un portrait de femme avec un pan au premier plan, de profil, dont l'œil vient recouvrir le sien. La poésie était très importante pour l'artiste. Il composait d'ailleurs en chinois et en anglais.
Je n'ai jamais cherché à être la plus brillante des lumières. La lumière la plus brillante se consomme trop vite, plus vite encore que les étoiles filantes. Je préférerais être la nuit. Je préférerais être lent et calme. Je préférerais que tu m'ignores souvent et que de temps en temps tu me jettes un regard, même si dans ce regard je ne suis qu'un décor.
Une sensibilité que l'on retrouve à travers certains clichés énigmatiques, notamment dans des décors naturels, une facette plus sombre de la carrière très courte de Ren Hang. Elle aura duré moins de 9 ans.
Reportage de Fanny Blechner pour VMDN. L'info dans un peu plus d'une minute sur RFI. À demain pour une petite plongée cette fois dans les élites françaises, si décriées par les temps qui courent, notamment à travers les manifestations des Gilets jaunes. Avec nous demain Claire Léo pour son premier roman. Il s'intitule Le Monde à nos pieds. Il nous emmène dans l'une des fabriques des élites françaises, l'Institut d'études politiques de Paris, plus connu sous le nom de Sciences Po. Le livre est paru chez Jean-Claude Lattès et vous m'en direz des nouvelles.
Partagez vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.